La foi, c'est la réalité de ce qu'on espère, l'attestation des choses qu'on ne voit pas.
Je vous invite à prendre la parole de Dieu dans le livre des Actes, au chapitre 24, à partir du verset 22. Félix est bien renseigné sur le chemin du Seigneur. Il renvoie le jugement à plus tard en disant aux Juifs « Je jugerai votre affaire quand le commandant Lysia viendra ». Il donne cet ordre à l'officier « Garde Paul en prison, mais sans l'attacher. N'empêche Paul en prison, mais sans l'attacher. N'empêche pas ses amis de lui rendre des services. » Quelques jours plus tard, Félix arrive avec sa femme Drusille, qui est juive. Il envoie chercher Paul et il l'écoute parler de la foi en Jésus-Christ. Paul se met à expliquer comment vivre pour plaire à Dieu, comment être maître de soi. Il dit aussi que Dieu va juger tout le monde. Alors, Félix a peur et dit à Paul, « Maintenant, assez pour aujourd'hui. Quand j'aurai le temps, je te rappellerai. » Le gouverneur Félix espère aussi que Paul va lui donner de l'argent. C'est pourquoi il le fait venir assez souvent pour parler avec lui. Au bout de 2 ans, Félix est remplacé par Fortius Festus, mais comme il veut faire plaisir aux Juifs, il laisse Paul en prison.
Bonjour à tous. C'est une très grande joie pour moi d'être là ce matin. Je remercie le pasteur Mathieu Fury pour l'invitation et l'Église pour le bel accueil. Et je rends gloire au Seigneur pour ce grand projet qui est mis en place, grand projet qui a été précédé par le Saint-Esprit, qui a déjà inspiré les membres à composer ces quelques objectifs pour ces années à venir. Et c'est impressionnant, pasteur, de voir comment ce projet rentre dans votre projet pour votre Église. Je suis Caleb. Je suis né pour te servir. Je t'appartiens. Je suis Caleb. Pour tout ce que tu as fait, pour celui que tu es, je veux laisser ma trace dans l'histoire. Et tant d'autres belles paroles que nous trouvons dans ce chant-thème. Nous pouvons avoir une idée de ce qu'est la mission Caleb. Un groupe de jeunes qui se retrouvent pendant les vacances, un temps où l'on pourrait partir en voyage, être allongé sur une belle plage ou être à la maison avec sa PS4. Mais non, on laisse de côté notre zone de confort et on se réunit pendant ces 2 semaines pour témoigner de la foi, pour organiser une série d'activités qui va toucher la communauté, pour inviter des gens à porter un regard sur le Sauveur. Accomplir cette mission tellement belle que le Seigneur nous a accordée. Crier la vérité pour aujourd'hui, l'Évangile éternel. Eh bien, chers amis, lorsque nous comprenons ce que le Seigneur Jésus a fait pour nous, nous ne pouvons pas nous taire et rester dans notre coin et vivre notre train-train quotidien en se contentant de travailler pour avoir des sous, pour vivre sur cette terre, pour continuer ainsi de suite. Non. À un moment donné, celui qui veut suivre le Christ, il sort de sa zone de confort. Il décide de mettre tout ce qu'il a, tout ce qu'il est, tout ce qu'il possède au service de cette parole qui est toujours vivante. Et il sort proclamé. Il travaille, oui, il est dans la société, il n'est pas du monde, mais il est dans le monde. Mais son travail devient un oasis, un endroit où ses camarades sont heureux de venir, sont heureux de parler avec lui, parce que là, il y a de la lumière. Son lieu d'étude, son école, tous savent que ce gars-là croit en Dieu, que cette jeune fille, elle a une foi, et cette foi l'aide à surmonter les difficultés, à avoir des bonnes notes même. Je pense, il y a quelques années, quand j'étais en terminale, j'avais beaucoup de camarades dans mon lycée. Et une grande partie était arabe, et puis ils me disaient « Ah, c'est le pasteur ». Et dernièrement, j'en ai retrouvé un dans la rue, dans mon quartier. Il a dit « Ah, le pasteur, ça va ?» C'est sympa quand les gens ont une bonne impression de ce qu'ils sont. Mais c'est parce que le Seigneur, un jour, a cru en moi. C'est parce qu'il a cru en toi un jour. C'est parce qu'un jour, il a dit « Cette personne a un grand potentiel. » C'est parce qu'un jour, il a pris cette initiative que nous, aujourd'hui, on peut faire quelque chose, n'est-ce pas? Si le Seigneur n'était pas là, où serions-nous aujourd'hui? Pour commencer, j'aimerais vous inviter à prendre une vingtaine de secondes et à penser à une chose que le Seigneur a fait dans votre vie cette semaine. C'est bon? Maintenant, je t'invite à regarder la personne qui est juste à côté. Formons des binômes. La personne qui est juste à côté. Et puis, je te demande de lui raconter cette chose-là que le Seigneur a fait dans votre vie. Témoignons. Allez-y, 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 tout le monde. Partagez ce que le Seigneur a fait dans votre vie. Eh bien, je vous remercie pour cet exercice. J'aimerais vous annoncer que nous venons de vivre une mission Caleb. Au revoir. Oui, en effet, je pourrais m'en aller. Parce que nous venons de vivre un des grands piliers de la mission Caleb, le témoignage. Nous sommes friands parfois, mission Caleb, le témoignage. Nous sommes friands parfois des nouvelles, n'est-ce pas? Surtout celles qui peut-être, pas que gênent un peu, mais péjorative, voilà. On est friand de ces nouvelles-là et on est prêt à les raconter, n'est-ce pas? Moi, le premier, je me reprends souvent. Gabriel, arrête de dire du mal des gens comme ça. Nous sommes friands des nouvelles. Et parfois, les témoignages, les bonnes choses, les hauts faits que l'Éternel fait dans notre vie, on est content, mais on les garde pour nous. Mais nous sommes invités à les partager. Et vous venez de voir combien c'est bon de raconter ce que le Seigneur fait pour nous. Et ça, c'est une des bases de la mission Caleb. Nous allons vers la communauté et nous lui racontons ce que le Seigneur a fait dans notre vie. C'est la base de l'évangélisation. Deuxième pilier de la mission Caleb, dynamiser l'Église. J'étais heureux de voir ici la phrase qui disait « pérenniser les groupes de maisons ». Deuxième, c'est le deuxième pilier de la mission Caleb. Nous travaillons à dynamiser l'Église en créant ou en dynamisant les groupes de maisons déjà existants. Et troisième pilier, et on termine là, c'est engager notre jeunesse. Tout au long de ces deux semaines de la mission Caleb, nous travaillons à créer un environnement pour que notre jeunesse, pour que les participants puissent prendre une décision d'engagement pour le Christ et l'œuvre. Pendant ces deux semaines, j'aime bien dire à nos jeunes, pendant les deux semaines, que nous vivons comme les premiers disciples vivaient dans Actes, les premiers chapitres. Nous sommes logés à peu près dans le même endroit ou dans des maisons. Nous prenons les repas dans la journée tous ensemble avec ce groupe des jeunes. Et ensuite, nous partons témoigner dans les rues. Nous distribuons des livres, des invitations à venir à l'église, des bibles, nous proposons des études bibliques aux gens. Et ensuite, on se retrouve à nouveau dans notre coin, dans notre quartier général. Et là, on raconte nos expériences, on témoigne. Et chers amis, tout au long de ces deux semaines, nous voyons le Seigneur travailler dans notre cœur. Nous le ressentons de vraiment tout près. Je pense aux dernières paroles que Jésus a dit avant de regagner le ciel. Il nous a dit qu'il sera avec nous tous les jours jusqu'à la fin. Et il nous envoie en mission Ces deux choses-là sont bien ensemble. Et quand nous partons en mission, je pense que nous pouvons, oui, prendre cette promesse de la présence de Dieu à part entière. Parce que nous sommes en train d'aller, de suivre ce qu'il nous a demandé de faire. Donc la promesse de sa toute présence, elle se fait toute présente dans notre vie. Amen. Amen. L'été prochain, l'église de Damary-les-Lys organise une mission Caleb dans la région. Et toute l'église est invitée à s'engager pour ce projet-là. Engagement total des membres pour toucher nos villes, toucher notre entourage. Nous allons voir dans l'après-midi et dans les rencontres ultérieures que nous aurons, comment vous pouvez vous engager. Il y a plusieurs équipes. Tous les membres peuvent s'engager d'une façon ou d'une autre pour l'organisation de ce grand projet. Que ce soit en priant, que ce soit en hébergeant des jeunes, que ce soit en préparant à manger les repas, ou en faisant de la pub, en faisant passer l'info, en lavant le linge des jeunes. Il y a du travail pour tous. Ou même en sortant aussi dans les rues avec les jeunes pour aborder les passants. C'est une activité où nous tous, nous pouvons trouver notre place. D'accord ? Sur ce, j'aimerais vous inviter à nous mettre en écoute de ce que la parole du Seigneur a pour nous aujourd'hui. Je priais il y a quelques jours et je demandais au Seigneur, « Seigneur, que veux-tu nous apprendre ce sabbat à Damary-les-Lys, dans ton église là-bas? Que veux-tu nous enseigner ?» Et le Seigneur, il m'a impressionné pour lire avec vous trois textes. Le premier, il a été lu, l'histoire de Félix. Et j'aimerais lire encore deux textes avec vous. Et j'aimerais vous demander de prêter attention à ces textes-là. Et nous allons conclure ensuite. Ça vous va? Oui? On peut partir? On peut attacher les ceintures? Nous allons décoller alors, avec les ailes de l'esprit. Actes chapitre 24. À partir du verset 22, nous voyons l'histoire de Félix. Félix est notre premier personnage principal. Et j'aimerais attirer votre attention à sa réaction face à l'Évangile. Chaque être humain, lorsqu'il est mis en contact avec l'Évangile, il réagit d'une certaine façon. Ici, Félix incarne le premier des grands groupes. Il y en a trois.
Félix, qui était bien informé de tout ce qui concernait la voie, les renvoya plus tard en disant « Quand le tribun militaire Lysias viendra, j'examinerai votre affaire. » Il donna l'ordre au centurion de le garder tout en lui laissant une certaine liberté, sans empêcher aucun des siens de s'occuper de lui. Quelques jours après, Félix vint avec Drusille, sa femme, qui était juive, et l'envoya chercher Paul. Il l'écouta parler de la foi en Jésus-Christ, mais comme il faisait porter la discussion sur la justice, la maîtrise de soi et le jugement à venir, Félix, saisi de crainte, lui dit « Pour le moment, va-t'en. Quand j'en trouverai le temps, je te rappellerai. » Il espérait par ailleurs que Paul lui donnerait de l'argent. C'est pour cela aussi qu'il l'envoyait chercher assez fréquemment pour s'entretenir avec lui. Deux années s'écoulèrent ainsi, puis Félix eut pour successeur Porcius Festus. Et voulant accorder une faveur aux Juifs, Félix laissa Paul en prison.
Nous avons Félix, un haut politique romain. Un haut politique romain qui a dans sa main les trois grands pouvoirs d'écrire des lois, de les faire respecter par tous et de juger les gens. Intéressant, il était marié à une juive. Je me demande comment cela peut-il se faire. Un païen romain marié à une juive. Et ils vivaient bien, selon les historiens. Ils vivaient bien, ensemble. Peut-être d'un côté et de l'autre, on faisait des concessions. Lui n'était pas vraiment un païen endurci. Il s'intéressait quand même aux faits religieux qui touchaient à ce que croyait sa femme, comme le texte nous le dit. Il était bien au courant de tout ce qui concernait la voie. Tout ce qui concernait la voie. Il était au courant de ce Jésus, cet homme de Galilée. Il était au courant de ses prédications. Il était bien au courant de sa fin, de ce qui sont devenus ses disciples, des émeutes à Jérusalem. Il était au courant. Et peut-être aussi Drusille, sa femme, elle faisait des concessions de sa part. Elle allait dans certains banquets romains. Elle allait avec son mari lors de la vénération des empereurs.
Que sais-je ? Avançons.
Cet homme-là, il a à sa charge Paul. Et il ne se contente pas de le garder en prison, il s'entretient avec lui. Un beau jour, il appelle Paul, et Paul commence à prêcher. Paul, un grand ministre de la parole, il saisit cette occasion et il prêche trois prédications. La première, portant sur la justice. La deuxième, sur la maîtrise de soi. Et la troisième prédication, le jugement à venir. À ce moment-là, Félix n'en peut plus, il l'arrête. Pour un gouverneur romain, c'était chose incroyable, parler de maîtrise de soi. Il pouvait faire ce qu'il voulait, avec qui il voulait, à n'importe quel moment. Parler de jugement, ou parler d'un jugement à venir, parler de justice ou d'un jugement à venir, pour lui, lorsqu'il finissait une affaire, c'était fini, on ne pouvait plus revenir. Mais Paul lui dit, écoute, tous les cas que tu as déjà pu juger jusqu'à aujourd'hui, toutes les possibles injustices commises, eh bien un jour, chaque affaire va repasser devant le juge de l'univers. Et on va voir toutes les intentions derrière les gens, toutes les actions. Et là, Félix, il arrête Paul, il l'en renvoie et il le garde en prison. 2 ans plus tard, il est muté. Flavius Joseph nous apprend qu'il est mort avec sa femme, Félix avec sa femme, en Italie, quelques années plus tard. Et pendant ces 2 années, il retient Paul en prison. Paul, qui pouvait ouvrir des dizaines d'églises dans ce temps-là, il est arrêté, il est bloqué à cause de cet homme-là. Félix, je pense qu'il incarne le premier des groupes que j'aimerais appeler les intéressés. Ils s'intéressent aux faits religieux. Ils sont parfois même très au courant de ce que nous croyons, de ce que la Bible enseigne. Ils sont intéressés, mais à un moment donné, lorsque la parole les gêne, lorsque la parole rentre dans certains aspects, dans certaines chambres de leur cœur, où il faut verrouiller à clé, on dit « arrête-toi là ». Je veux continuer dans ma vie. Cette chambre-là, elle est fermée. C'est des gens qui, lorsque la parole commence à les inviter à un changement de vie, ils arrêtent la relation. C'est le premier des grands groupes. Je vous invite maintenant à ouvrir vos Bibles en Jean chapitre 12. Nous allons à la découverte de ce deuxième grand groupe. Jean chapitre 12. Je commence à lire au premier verset. 6 jours avant la Pâque, Jésus vint à Béthanie où était Lazare, qu'il avait réveillé d'entre les morts. Là, on donna un dîner pour lui. Marthe servait et Lazare était l'un de ceux qui étaient à table avec lui. Marie, donc, prit une livre d'un parfum de nard pur de grand prix. On répandit sur les pieds de Jésus et lui essuya les pieds avec ses cheveux. La maison fut remplie de l'odeur du parfum. Un de ses disciples, Judas Iscariote, celui qui allait le livrer, dit alors,
Pourquoi n'a-t-on pas vendu ce parfum 300 deniers pour les donner aux pauvres ? Il disait cela non parce qu'il avait le souci des pauvres, mais parce qu'il était voleur, et que tenant la bourse, il prenait ce qu'on y mettait. Mais Jésus dit, « Laisse-la garder cela pour le jour de mon ensevelissement. Les pauvres, en effet, vous les avez toujours avec vous, mais moi, vous ne m'avez pas toujours. »
Ici, quel personnage aimeriez-vous prendre comme principal dans cette histoire? Il y a plusieurs. Quels sont les personnages de cette histoire? Aidez-moi. Hein? Marie? Qui d'autre? Lazare? Qui d'autre? Jésus? Et? Marthe et Judas. Je prendrai Judas, Judas Iscariote. Un homme qui a vécu 3 ans et quelques avec Jésus. Il a voyagé avec Jésus. Il a pu lui poser toutes les questions qu'il avait envie. Qui ici, parmi nous, aimerait avoir 1 minute avec Jésus pour lui poser quelques questions? Lève la main. 1 minute seulement. Une petite minute. Ah, les amis, je n'ai des questions. Hein. 1 minute avec Jésus. Eh bien, Judas en a eu 3 ans et quelques. Il a pu manger avec Jésus. Peut-être il a pu même manger quelque chose que Jésus a cuisiné. On ne sait pas. On le saura au ciel. Mais cet homme, bien qu'étant tout prêt, vraiment tout prêt, il était très, très, très loin. Il était le trésorier d'une église de 12 membres dans laquelle le pasteur, c'était Jésus, le créateur de l'univers. Et il se permettait de mettre la main dans la bourse et de voler de l'argent. Qu'est-ce qu'il avait dans sa tête? Est-ce qu'il savait ce qu'il faisait? Je pense que ici, Judas incarne un deuxième groupe de personnes. Ces personnes sont là-dedans. Elles ne sont pas à l'extérieur, comme Félix. Elles sont dans l'église et elles occupent même des postes parfois importants. C'est des gens très sérieux. À 9h15, non, ici c'est 10h, l'école du sabbat. Hein. À 10h, ils sont là. Ils sont ponctuels. Ils sont aussi les premiers à voir ce qui ne va pas chez l'autre. C'est le premier à voir que la jupe de la jeune fille, elle est un peu trop courte, ou que telle sœur a mis un peu trop de couleur au visage. C'est le premier. Ici, Judas a vu une dame qui a mis du parfum sur les pieds d'un homme. Un parfum très cher, d'ailleurs. C'était le premier à critiquer. Mais pourquoi a-t-elle fait cela? Mais c'est des gens qui, tout en étant très sérieux sur certains aspects et très proches dans l'institution, ils sont complètement à côté de la plaque. Complètement. Je dirais que ce groupe-là, c'est le groupe des gens qui sont... Comment on pourrait appeler ce groupe-là? Est-ce que vous auriez une idée? Des gens qui sont dedans, mais le cœur n'y est pas tout entier. Ils ont d'autres intérêts. Des gens qui gardent des petites chambres aussi dans le cœur, fermées à l'Évangile. Ils sont là, présents. Tout le monde les voit. Mais le cœur n'y est pas. Hein? Ils ont l'apparence du bien. Un grand masque. Vous auriez une idée de comment on pourrait appeler ce groupe? Hein? Usurpateur, ça peut fonctionner. D'autres idées? Hypocrite, oui, là c'est fort. Hypocrite. Quoi d'autre? Imposteur, oui. Pâques aussi. Peut-être inconscient. Intéressant de dire inconscient. Parce que je me posais. Intéressant de dire inconscient. Parce que je me posais il y a quelques jours la question, est-ce que lorsque je pêche devant la face du Seigneur, est-ce que je suis conscient? Si je suis conscient de sa grandeur et qu'il est là partout, est-ce que j'oserais pécher? Ou est-ce que je suis un athée non pratiquant? À certains moments, je suis athée parce que je me permets de transgresser son caractère, tout en croyant qu'il voit tout. Est-ce que je ne deviens pas un athée à ce moment-là ou un inconscient? Je me posais ces questions-là. Peut-être les gens qui sont mêlés. Ils participent dans un groupe, ils sont mêlés dans les activités, mais le cœur n'y est pas. Allons voir le troisième groupe. Nous allons tourner un peu les pages en arrière à 1 Roi, chapitre 19. 1 Roi, chapitre 19. Je lis à partir du verset 19. Je vois que l'heure avance et nous allons conclure. Élie partit de là et trouva Élisée, fils de Shaphat, qui labourait. Il y avait devant lui 12 paires de bœufs, et il était avec la 12e. Élie passa près de lui et jeta son manteau sur lui. Élisée abandonna ses bœufs, courut après Élie et dit, « Laisse-moi, je te prie, embrasser mon père et ma mère, et je te suis. » Élie lui répondit, « Va et viens à cause de ce que je t'ai fait. » Il s'éloigna d'Élie et prit une paire de bœufs qu'il le frit en sacrifice avec l'attelage des bœufs. Il fit cuire la viande et la donna à manger au peuple, puis il suivit Élie et devint son auxiliaire. Essayons d'imaginer la situation.
Élisée travaille, il laboure la terre. Élie, le grand prophète, s'approche de lui, prend sa veste et met sur les épaules d'Élisée. Et puis, qu'est-ce qu'il fait? Il trace sa route. Élisée comprend ce qu'il vient de faire à cette époque-là. Placer sa veste sur les épaules de quelqu'un d'autre, c'est « Je te file le bébé, je te donne mon travail et tu t'occupes du reste. »
Élisée comprend cela. Et il court derrière Élie et dit « Écoute, laisse-moi le temps de faire un bisou à maman et à papa. » Et je vais te suivre. Élie ne le calcule même pas. Il dit, ok, tu sais ce que je t'ai fait, je continue.
Élisée court, il rentre dans sa maison, et j'imagine, il dit, papa, maman, je pars. Et puis, tu pars où? Mais t'es notre retraite. À cette époque-là, il n'y avait pas la retraite, hein, c'était les enfants. Il dit, mais non, mais je dois partir, le prophète Élie. La retraite, hein, c'était les enfants. Il dit, mais non, mais je dois partir, le prophète Élie vient de passer, et je suis un nouveau prophète à sa place. J'imagine que sa mère a commencé à pleurer, que son père s'est assis sur un siège et puis commencé à pleurer, s'il n'arrivait pas à comprendre, et puis il dit, mais j'ai pas le temps de discuter, il dit, mais non, appelle Élie, on va lui la délégation, on va discuter avec lui, on va voir les modalités, combien il va te payer par mois.
Élisée dit, maman, j'ai pas le temps, je dois partir et c'est maintenant. Il a continué sa route. Et j'imagine ses parents en pleurs, ce jeune homme qui leur prend dans ses bras et qui imagine que ce serait peut-être une des dernières fois qu'il les verrait. Parce qu'être prophète, lorsque le roi craint le nom de l'Éternel, c'est excellent. On vit dans la cour. On mange bien, on gagne même quelques kilos. Mais lorsque le roi est un suppôt de Satan, qui adore Baal et qui tue les sacrificateurs de l'Éternel, eh bien là, il ne faut pas rigoler. Là, on est sûr de vivre une vie de pénurie, de famine, de fuir, de dormir à la belle étoile. Et de probablement... On ne pourra jamais avoir une famille, je ne pourrai jamais me marier, pas avoir d'enfants, et vers la quarantaine, je serai assassiné comme les autres avant moi. Être prophète à cette époque-là, ce n'était pas une belle affaire. aux yeux des hommes. Aux yeux des hommes. Aujourd'hui, nous sommes appelés à avoir les yeux de la foi. Que ce soit lors d'un appel du Seigneur, que ce soit lorsque tu ne dois pas aller à un examen le sabbat ou renoncer à une magouille dans ton travail, il faut avoir les yeux de la foi. À la place des plaisirs instantanés. Non, regarde au bonheur qui perdure et est éternel. Amen. Élisée part à la suite d'Élie. Mais il y a un détail. Pendant longtemps, je n'ai pas compris pourquoi le texte disait cela. Jusqu'au jour où, en discutant avec mon père, et puis
le Seigneur nous a donné quelques éclairages.
Au milieu de cette course, Élisée s'arrête. Et qu'est-ce qu'il y fait? Aidez-moi, s'il vous plaît. Il fait un barbecue. Au milieu de sa course, il s'arrête et il tue des bœufs. Il prépare un feu. Il cuisine la viande. Il la fait mijoter. Ensuite, il invite tous ses amis. Ils mangent les viandes ensemble. Et après cela, il part. Et il suit Élie. Mais pourquoi? Élie, il était déjà parti. Pourquoi il s'arrête au milieu de la course? Et il fait cette action vraisemblablement étrange. Peut-être, chers amis, Élisée s'est dit, en ces quelques instants de réflexion, que cette mission qu'il allait entreprendre serait difficile, et que peut-être à un certain moment, il penserait à revenir en arrière, à reprendre sa paire de bœufs, et à continuer son travail dans cette ferme qui était à lui. Peut-être en pensant à ces difficultés-là, il s'est dit qu'un jour, sa foi pourrait faiblir et qu'il pourrait penser à revenir en Égypte. Il s'arrête. Il tue les bœufs. Et lorsque le dernier bout de viande est mangé, il part. Lorsque le dernier tison de bois est brûlé, il s'en va. Élisée est quelqu'un qui, face à cette rencontre avec le Seigneur, il a pris la décision de brûler son plan B. De brûler son passé. Plan B. De brûler son passé et de partir avec tout ce qu'il a dans cette mission pour son accomplissement. Élisée, il incarne ce troisième groupe de ceux qui sont engagés, de ces membres d'église qui sont engagés. Lorsque l'appel vient, on répond à l'appel. Même si cela représente à des renoncements dans ma vie, à des choses que je dois laisser de côté ou des choses à quelles je vais devoir m'en priver. Et on part accomplir une mission. Élisée est partie et retrouva Élie. Après, Élie est monté au ciel dans ces chars de feu qui relie la terre au ciel. Cet événement unique, cette chose pas possible aux yeux de l'homme, mais que selon les yeux de Dieu et les yeux de la foi fonctionne. Moi, j'ai envie de dire que ce char-là s'appelle Jésus-Christ. Cet homme qui relie le ciel à la terre et nous permet de remonter avec lui au parvis céleste. Élie repart, Élisée reprend sa veste et puis part vivre un ministère incroyable. Un ministère où le Saint-Esprit est doublement présent. Je ne sais pas comment ça marche, parce que quand il est tout présent, mais doublement présent. Et un beau jour, Élisée rentrait chez lui, et le soleil se couchait au loin, et ça faisait des ombres longues. Et son ombre passait sur les terres. Et il y avait un tombeau qui avait été creusé et on avait mis un corps d'un homme dedans. Mais on n'avait pas le temps de le renfermer parce qu'il y a eu des gens qui passaient. Après, vous pouvez relire le texte. Et son ombre est passée sur ce corps inerte, ce corps sans vie. Et le jeune homme a été ressuscité. Un jour, il était dans une ville qui était assiégée par des bras et des mains charnelles. Et il était paisible. On lui demande, mais pourquoi tu es paisible, toi? Tu es dans une ville qui est assiégée, qui sera bientôt détruite. Et il demande juste au Seigneur d'ouvrir les yeux à son serviteur pour qu'il puisse avoir ses yeux de la foi et voir que ceux qui sont pour nous sont plus nombreux que ces hommes-là qui nous entourent. Le Seigneur a ouvert ses yeux pour qu'il voie des myriades de soldats, de chevaliers qui étaient autour de cette ville en train de prendre soin d'elle. Chers amis, on pourrait continuer, on discourait des heures et des heures à propos des choses tellement extraordinaires qui sont arrivées dans la vie et le ministère de cet homme béni par le Seigneur. Tout cela parce qu'il a commencé avec un cœur tout entier. Il a commencé sans plan B. Si j'y vais, c'est pour aller et pour aller et pour aller. Jamais retourner en arrière. Il y a un cantique, peut-être ça vous sonne dans les oreilles déjà en anglais, qui dit ces paroles-là. Jamais retourner en arrière. Dit ces paroles-là. Jamais retourner en arrière. Et ce groupe-là, je termine ici sur ce groupe. J'aimerais vous inviter à faire partie de ce groupe-là, les amis. À faire partie de ce groupe-là. D'être engagé, que tu aies 4 ans, 6 ans, 10 ans, ou 60, 12, ou même plus. Aujourd'hui, et puis chaque jour dans la vie d'un croyant, c'est un jour d'un renouveau, un jour où on peut recommencer. Notre Seigneur est le Dieu de la seconde chance, n'est-ce pas? Aujourd'hui, c'est un jour où on peut dire au Seigneur, je veux être engagé dans ton œuvre, Seigneur. Que ce soit dans les projets spéciaux comme la mission Caleb, et c'est pour ça que je suis là aujourd'hui, pour vous en parler de ça, et cet après-midi, on va en discuter encore, et les sabbats à venir aussi. Mais que ce ne soit pas seulement dans des projets spéciaux que l'Église organise une fois par an, mais que cela puisse devenir une habitude de vie. Car lorsque son Église sera engagée, chers amis, nous allons tourner nos yeux vers le ciel et nous verrons notre Seigneur revenir en grandeur. Et nous pourrons dire, « Oh Seigneur, on t'a tant attendu, mais tu es enfin venu et on est heureux de te retrouver. » Qui veut être là dans ce grand jour? Moi, je veux y être. Et je veux y être dans ce jour-là et je veux vous voir là-bas aussi. Car le Seigneur, il m'a trouvé le premier, il m'a aimé le premier. Et en faisant la mission le premier, il m'invite à la poursuivre aujourd'hui dans ses projets. J'aimerais clôturer ce moment par une prière. Et juste après, nous allons chanter ce cantique Caleb. J'espère que vous avez pu déjà vous familiariser avec ces paroles. Je vais vous inviter à vous lever et puis à le chanter. À un moment donné, dans le refrain, on fait comme ça avec la main. C'est pour montrer notre engagement. C'est un signe que nous avons choisi. Voilà, donc lors du refrain, vous avez des jeunes qui font comme ça. Vous pouvez le faire aussi. La main bien ouverte, hein, pour ne pas mélanger avec d'autres gestes. Et puis bien droite, comme ça. Voilà, je suis Caleb. C'est pour dire que moi, je veux prendre cet engagement. Je mets ma main au service du Seigneur. Et voilà. Mais pour terminer alors ce moment de la parole, j'aimerais terminer par une prière où, premièrement, on demande au Seigneur de faire que cette parole-là ne soit pas seulement de caractère imprimé sur un papier extrêmement fin qui compose les pages de la Bible, mais que cette parole-là puisse être écrite dans notre cœur. Et que nous puissions, si tu le souhaites, bien sûr, le Seigneur est un gentleman, si tu le souhaites, devenir un engagé dès aujourd'hui. Un engagé. Et pour cette prière, le Seigneur me dit que ce sera mieux si vous la faites, pas moi ici devant. Et je pense qu'on peut faire des petits groupes de 3 personnes, si ça vous dit. Le mieux, c'est s'il y a quelqu'un dans ce groupe que tu n'as pas encore discuté aujourd'hui, c'est mieux encore. Qu'on fasse ces groupes de 3 personnes et qu'on puisse prier spécialement pour que le Seigneur nous aide à être engagés. Et ensuite, je vous inviterai à prier pour ce grand projet que nous lançons aujourd'hui, dans la foulée, la mission Caleb. Que le Seigneur bénisse cette église, nos jeunes et notre communauté. D'accord ? Ces deux choses-là. Je vous invite à vous lever et je vous invite à former ces petits groupes de 3 personnes. Peut-être faudra bouger un peu, hein ? Ces groupes de 3 personnes, allez-y. On a tous un groupe ? Très bien, on a tous un groupe, je pense alors qu'on pourra commencer. D'ici quelques instants, le pianiste va jouer quelques notes au piano, vous allez comprendre que c'est le moment de terminer la prière et nous chanterons le chantem Caleb. D'accord ? Allez-y, c'est parti.